Mario Tremblay, de retour de vacances des fêtes, sera avec nous dans les prochaines minutes. On va aller retrouver Jean-Philippe Dache à Kansas City, membre de l'équipe médicale des Chiefs, qui se prépare pour le match contre les Patriots dimanche. On va lui demander comment ça se passe là-bas. Jacques Villeneuve aussi avec nous ce soir. Mais d'abord, chronique Sport Business avec notre ami Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Ray, qu'on peut suivre, bien sûr, sur Twitter, sur YouTube également et sur SoundCloud avec ta chronique Focus, à laquelle je participe occasionnellement avec grand plaisir. Plusieurs sujets ce soir. Notre gros sujet, là, c'est le dossier des sénateurs. Ça commence à chauffer pas mal. Et dans le sens que, pas chauffer, il va se passer quelque chose, je pense.
Oui.
Mais juste avant, ça c'est une nouvelle de dernière heure, il n'y aura pas de Coupe du Monde en 2020.
Ouais. Ouais. Ils viennent d'annoncer ça, l'Association des joueurs et la Ligue nationale, qui sont en rencontre actuellement, puis ont décidé de reporter à plus tard. Un peu décevant, parce que 2020, Mario, là, c'est quand même dans un an et demi. Là. Et c'est pas quelque chose qui est impossible à organiser en si peu de temps. Mais
ils ont pris la décision vite.
Ouais, ouais, un peu vite. Puis je pense que ça c'est mon opinion là. Je pense qu'il y a un petit élément là que on se prépare à la négociation pour la convention collective. Ça joue un petit peu un rôle là-dedans. Ça doit être un peu plus tendu. Puis je suis pas sûr qu'ils veulent se donner la peine de faire un événement comme ça si rapidement à l'approche de la fin de la convention.
Et on peut pas dire rapidement pour compléter là-dessus que la première édition, en tout cas la dernière, a été un grand succès. Non. J'y étais sur place. Ah ouais. C'était correct, on a eu des bons matchs, mais on peut pas dire que ça a levé peut-être comme on l'aurait souhaité.
Ben, l'élément le plus positif, c'était l'équipe de moins de 23 ans.
Oui.
Qui a rajouté un élément fantastique au spectacle. L'élément qui, à mon avis, n'était pas aussi important dans l'équation, c'est le succès financier. Ils pensaient qu'il y aurait énormément d'argent en recettes puis en profit net pour les joueurs, puis ça n'a pas été le cas.
OK. Le sujet des sénateurs d'Ottawa, quand je dis qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, il y en a des rumeurs par rapport à la construction d'un nouvel amphithéâtre. Dans la chronique d'Eliott Friedman et la vente des sénateurs par Melnick, plusieurs souhaitent voir partir. Et dans la chronique d'Eliott Friedman sur Sportsnet ce matin, il amène le nom d'André Desmarais. Ça fait longtemps qu'on dit ou qu'on évoque la possibilité que les Desmarais s'intéressent à une équipe de la Ligue nationale de hockey. Il semble que ça va se concrétiser, Ray, ou en tout cas, ils sont dans le portrait. Là.
Ils sont dans le portrait, ça prend forme, Mario, mais je vais donner un petit recap sur les sénateurs d'abord. Là.
Oui, vas-y.
Ils sont 27e sur 31 dans la Ligue nationale de hockey au niveau des assistances.
OK.
OK, c'est 14 500 par match. Et ça inclut des billets qu'ils ont distribués gracieusement. L'autre point qui est important, c'est que les sénateurs ont fermé une partie des estrades en haut de l'aréna, de façon à ce que ça soit un petit peu plus intime comme expérience. Alors, c'est une équipe qui souffre en termes de popularité et au niveau commercial. De là, l'intérêt de tout le monde de se faire construire un amphithéâtre neuf aux Plaines-le-Breton, tout près du centre-ville. Bon, et là, il y avait deux groupes, mais c'est devenu un groupe qui était le partenariat entre Eugene Melnick et John Ruddy. Mais là, la chicane a pris, la dispute a pris et les poursuites judiciaires ont pris forme. Alors, le groupe d'André Desmarais est maintenant invité par Eugene Melnick à venir jouer le rôle d'intermédiaire, peut-être de médiateur. Parce que, ultimement, M. Melnick, son objectif, c'est de faire construire un amphithéâtre, Mario. Parce que, avec l'arrivée d'un nouvel amphithéâtre au centre-ville, son équipe prend soudainement énormément de valeur. Et derrière ça, son agenda, c'est pas de, un jour, vendre son équipe et de la garder à Canada, c'est de la vendre au centre-ville d'Ottawa.
Le terrain est toujours accessible ou ouais, l'option mais, des Plaines-le-Breton est éliminée?
C'est encore accessible, bien sûr. Et on a prolongé encore un peu la date.
Malgré les poursuites.
Malgré les poursuites. Parce que, ultimement, je pense que les gens de la Commission nationale qui gèrent
tout le monde
droits
veut que ça aboutisse.
Tout le monde veut que ça aboutisse.
Voilà. OK. Et là, c'est Melnick qui fait appel à Desmarais pour lui dire, ben viens m'aider à régler ça. Lui, dans le fond...
Viens participer à l'équation, Mario. Viens être une solution pour le débat et la dispute qu'on a entre nous, parce que tu pourrais être le joueur qui pourrait régler.
Le pacificateur.
Ouais, puis régler le dossier, puis peut-être lui-même, là, je fais de la spéculation, là, M. Desmarais, être le responsable de cette nouvelle construction-là.
Et le nouveau propriétaire des sénateurs. Peut-être que Melnick, dans le fond, tente de l'attacher à tout ça, puis il pourrait, penses-tu qu'il pourrait quitter ou vendre les sénateurs plus vite qu'on le pense? Vois-tu un délai de quelques années ou de quelques mois?
Je ne veux pas lancer des rumeurs pour les gens d'Ottawa, mais c'est un scénario envisageable, absolument.
OK. D'autres choses à ajouter sur le dossier des sénateurs?
Non, je pense qu'il va falloir qu'on suive de près, Mario, parce que, tu sais, les sénateurs sont dans une phase où ils doivent renégocier un contrat avec Matt Duchene. Ils ont laissé passer Eric Carlson l'an dernier. Ils ont encore des difficultés au niveau de vraiment la popularité de cette équipe-là. C'est un éternel recommencement. Alors, j'applaudis les efforts pour un nouvel amphithéâtre. C'est pas évident, là, puis la question, c'est qui va payer pour cet amphithéâtre-là?
Mais tout indique donc qu'en tout cas, la population de l'Outaouais et d'Ottawa garderait son équipe, mais on pourrait changer de propriétaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, si on a un nouvel amphithéâtre, ça veut dire que la présence des sénateurs est garantie pour un autre quart de siècle. Très certainement. OK. Ligue canadienne de football. Il y a eu les états généraux de la Ligue à Tremblant la semaine dernière. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui retient ton attention par rapport à ça? On a beaucoup parlé de chiffres et du plafond salarial versus les nouveaux défis des nouvelles ligues qui vont naître bientôt aux États-Unis.
Ouais, mais t'as mis le doigt dessus, Mario. C'est l'ensemble de ces points-là. Dans des rencontres qu'ils ont eues à Mont-Tremblant la semaine dernière, les dirigeants de la Ligue canadienne ont discuté de plusieurs éléments. Des nouveaux règlements, la situation des quarts arrière. Ils ont besoin de quarts arrière vedettes dans la Ligue canadienne. Mais il y a quelques points qui sont sortis de là. D'abord, on a confirmé encore une fois qu'il y a un plafond salarial pour le personnel de football. Le personnel de football, c'est 11 entraîneurs et 14 autres membres. Ça inclut les directeurs gérants, les gars de vidéo, les gars de dépistage, et ainsi de suite. 2,5 millions de dollars à peu près pour tout ce monde-là. Ça va rééquilibrer un peu ces dépenses-là. Puis pourquoi qu'il y a un plafond salarial pour les gens de football? C'est parce que des équipes qui avaient été un petit peu, négligentes dans leur gestion, dépensaient trop d'argent sur les opérations football en pensant que c'était une récompense promise de gagner un titre, et ça l'a affecté l'état financier d'un club ou de plusieurs clubs. Donc, sachant ça, je pense que c'est une excellente décision du commissaire. Parmi les autres choses qu'ils ont discuté, une relation officielle avec la Ligue professionnelle au Mexique. Un événement qui a eu lieu ce week-end, un événement de dépistage, on appelle ça en anglais un « combine », où on a repéré un peu le talent au Mexique, puis on a procédé même à un repêchage. Et parce que Randy Ambrosi, le commissaire Mario, a des visions de grandeur.
Mais il y a du football américain au Mexique?
Il y a du football américain au Mexique, il y a du football américain en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, bien sûr, pour avoir connu la Ligue mondiale de football, la NFL Europe à l'époque. C'est pas évident de trouver des joueurs pour jouer dans la Ligue canadienne ou la NFL. Mais il y a des bons joueurs de football ou des bons athlètes comme partout ailleurs dans le monde.
Je veux pas te prendre, là, comment dirais-je, au dépourvu, parce que je sais pas quelles sont tes connaissances. Moi, je connais pas bien. Honnêtement, je savais même pas vraiment qu'il y avait du football américain au Mexique. C'est-tu du gros calibre ou c'est en bas de la Ligue canadienne?
C'est en bas de la Ligue canadienne. C'est en bas aussi ce que j'appellerais même de la Division 1 aux États-Unis. Mais c'est du football de bon calibre.
Populaire,
presque la moitié des joueurs proviennent des États-Unis aussi.
Okay. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas d'autres avenues. Mais exactement. Là, il va y en avoir cependant. Là, ça, va changer la donne.
C'est un sport compliqué, le football américain. Football canadien, football américain, peu importe. 11 joueurs, 12 joueurs, Mario.
Oui.
C'est difficile pour les gens qui n'ont pas la culture nord-américaine de pouvoir s'épanouir dans le football comme sport. Mais ça demeure un sport que les athlètes du monde entier affectionnent et espèrent comprendre, parce que il y a quelque chose de guerrier dans le football, cette confrontation physique-là et l'aspect stratégie et tactique. Alors, c'est vraiment un sport qui séduit les gens, mais il faut le comprendre. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça que les athlètes de d'autres pays ne sont pas prêts à l'âge de 18, 19, 20 ans à évoluer au niveau professionnel, même dans la Ligue canadienne.
Là, l'Alliance, l'American Alliance Football, XFL, on sent là, les DG commencent à en parler. Penses-tu qu'on va se faire shipper bien des joueurs, des gros noms?
Ben,
ça
moi,
va
je
quoi,
pense
principaux
que
défis, des principaux défis?
Le AAF, Alliance of American Football, va payer un salaire moyen d'à peu près 75 000 $ US. C'est déjà plus que les joueurs dans la Ligue canadienne et c'est en dollars US. Je pense que ça va affecter, si les deux ligues XFL et AAF survivent, Mario, je pense que ça va affecter la formation d'un alignement dans la Ligue canadienne. Je suis pas sûr que les meilleurs joueurs quitteraient non plus. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu as deux ligues soudainement avec 10 équipes chaque en compétition, ou 8 ou 10 équipes chaque, dépendant des deux, qui vont avoir besoin de joueurs pour le printemps. Puis ça va peut-être être suffisant pour que ces gars-là ne jouent pas dans la Ligue canadienne à l'automne.
J'ai pas regardé si les calendriers seront en conflit d'horaire ou si ça sera complémentaire sur l'année. Si à la limite, un joueur pourrait évoluer dans deux ligues de la même année.
Il pourrait, oui, Mario. Il pourrait jouer dans la Ligue canadienne ou dans la NFL, si on veut. Les deux autres ligues sont des ligues de printemps. Elles vont se faire face une à l'autre en calendrier parallèle. Parmi les autres éléments de la CFL que je veux te souligner, là, il y a quand même des gros défis. Là, puis je reviens sur le marché de Montréal, Toronto et Vancouver. Les trois plus grandes villes au Canada sont les trois villes qui souffrent le plus en termes d'assistance, en termes de popularité, en termes de présence. Alors, c'est difficile pour ça. La Coupe Grey qui a été disputée il n'y a pas longtemps entre Calgary et Ottawa a eu une baisse d'audience de 1 million de spectateurs de moins, 23 % de moins que l'année précédente. Mario,
c'est majeur.
C'est majeur parce que les séries éliminatoires n'ont pas été très enlevante, puis le match a été un peu moyen. Et là, quand tu perds tes spectateurs à un événement national comme la Coupe Grey, c'est pas bon signe pour la Ligue canadienne non plus. Monsieur Ambrosi est le bon gars pour être le commissaire avec une vision mondiale, mais m'a dit, il y a du pain sur la planche.
C'est drôle, je pensais à ça, on n'aura pas le temps de développer, mais regarde, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est absente du grand centre de l'Est du Canada, qui est Montréal. Est-ce que le salut, l'avenir de la Ligue canadienne passe par des marchés qui sont loin des grands centres? Je sais que ça fait pas de sens par rapport au rayonnement, mais par rapport au succès qu'on peut avoir dans des marchés. Regarde la MLS qui continue son expansion. On ne vise pas que les plus grosses villes.
Non, t'as raison. C'est un bon point, Mario, puisque je te dirais là-dessus, c'est que je pense quand même que Toronto et Montréal doivent trouver une meilleure recette pour y
arriver.
Idéalement,
c'est sûr.
Mais tu sais, il va y avoir une 10e équipe bientôt à Halifax, les Schooners Atlantiques, dans un stade de 200 millions de dollars. Alors, c'est un gros investissement. Ce côté-là, c'est bon pour la Ligue canadienne d'avoir une équipe jusque dans l'Est. Ça va équilibrer les forces.
Oui.
Mais d'un autre côté, je pense que le défi d'Ambrosi, c'est de trouver des moyens de pénétrer les marchés de Montréal et Toronto.
Parlant de la MLS, parlons-en de l'expansion. Là, écoute, ça continue. Là. Puis dans des marchés, justement, dans des villes parfois surprenantes.
Bien, là, c'est Austin qui a été annoncé.
Ben oui.
Austin FC. Austin, Mario, c'est une des villes où il fait le mieux vivre aux États-Unis. C'est au Texas. L'Université de Texas qui est là, les Longhorns, très, très populaire, mais ils n'ont jamais eu une équipe professionnelle. Alors là, ils vont compétitionner contre Dallas FC et contre le Dynamo de Houston. Alors, ils vont être dans le milieu d'un État où le sport est majeur, est roi, est dominant. Ça coûte 150 millions rentrés dans la Ligue. Ils ont un stade en construction de 225 millions de dollars. Gros investissement. C'est la 27e équipe dans le projet de 28 équipes de Don Garber. Celle-là est déjà promise. Ça va commencer en 2021. Entre-temps, Cincinnati, Miami et Nashville vont accéder à la MLS. Mario, l'expansion de la MLS, ça continue. À toutes les quelques mois, il y a une autre franchise qui est annoncée. Bravo à Don Garber. Les franchises coûtent plus cher. Le soccer de plus en plus populaire. N'oublie pas, Mario, on se dirige vers la Coupe du Monde en 2026.
On est à la vitesse grand V.
Qui va accueillir 60 matchs des 80 aux États-Unis.
Et en terminant, quelques chiffres astronomiques qui vont nous faire sourciller sur la réalité du FC Barcelone, mon chéri.
Ben, la raison pour laquelle je veux te parler de ça rapidement, c'est parce que je répète à tout le monde là, qu'on a les Canadiens de Montréal, on a les Yankees de New York, les Cowboys de Dallas, qui valent effectivement beaucoup d'argent. Mais le plus gros club sportif au monde, c'est FC Barcelone. Ils ont annoncé récemment là, des revenus de plus d'un milliard de dollars US dans une année. Et là, ils viennent d'annoncer que leur personnel va leur coûter 589 millions de dollars, un million de dollars US. C'est extrêmement cher pour une équipe de sport.
Hey, c'est toi qui le dis. Merci beaucoup, mon cher Ray. Une excellente soirée.
Merci,
et
Mario.
Je te dis à la semaine prochaine, le Bleu Bionique est de retour après la pause. Il est en forme, évidemment.